J'ai l'honneur de donner la parole au collègue Nathan Wachtel qui va ouvrir notre journée et je suis très reconnaissant qu'il soit avec nous pour sceller l'amitié de tant de parcours et d'années.
Merci. Je suis heureux de vous dire la bienvenue au Collège de France pour cette journée d'études autour de Moshe Idel, professeur émérite à l'Université hébraïque de Jérusalem. Cette journée en hommage à Moshe Idel est en fait un honneur pour le Collège de France et c'est pourquoi je le remercie de nous honorer de sa présence et de l'exposé qu'il nous fera dans un instant. Et je vous remercie tous également d'être présents. Je n'ai pas besoin de présenter Moshe Idel devant ce public, mais je voudrais indiquer seulement que le titre de cette journée d'étude, « Bruissement de l'inarticulé dans la mystique et la musique », ce titre a été inspiré par un magnifique article que Moshe Idel a publié récemment, article intitulé lui-même « In a Whisper », en un murmure, où il s'agit de la transmission de secrets kabbalistiques, de choses mystérieuses qui ne peuvent être transmises qu'oralement, murmurées de bouche à oreille. Ce long article est un véritable enchantement au long duquel nous suivons, nous entendons ces murmures, ces chuchotements, ces bruissements qui se répondent, s'entremêlent, se font écho au fil des siècles et des millénaires. Et c'est un programme enchanteur qui nous est annoncé. Je lis quelques-uns des mots extraits des titres des exposés que nous allons entendre. « Anamnesis of Music in Kabbalah »,« Des oiseaux à la langue percée »,« Un doux et subtil murmure »,« Sus ratio », etc. Dans son livre sur les mystiques messianiques, Moshe Idel mettait en exergue des citations de deux auteurs qui me sont très chers, Marc Bloch et Vladimir Yankelevitch. Vous savez qu'un des très beaux livres, des plus beaux livres de Yankelevitch, porte sur la musique et l'ineffable. Et le programme de cette journée d'études est déjà emprunt de la mélodieuse et subtile poésie yankelevitchienne. Voici une autre citation de Yankelevitch en exergue à cette présente journée. Je cite « La musique, demandait-il, est-elle un divertissement sans portée ou bien est-elle un langage chiffré comme le hiéroglyphe d'un mystère, ou peut-être les deux ensemble. » Fin de citation. Je n'en dis pas plus, sinon pour signaler le paradoxe, la très grande difficulté que les intervenants vont devoir affronter pour traiter de murmures, d'inarticulés et d'ineffables. Ils devront parler à haute voix devant un micro relayé par des haut-parleurs. Je remercie tout particulièrement les auteurs des exposés que nous allons entendre d'avoir accepté d'affronter une telle difficulté. Et sans tarder davantage, je donne la parole au professeur Carlo Ossol.
Un grand merci, cher Nathan, pour la finesse de ton introduction et la chaleur de ta participation à notre journée qui se présente en effet avec ses difficultés. Je voudrais, dans cette brève introduction, simplement rappeler quelques données qui justifient cette journée autour de Moshe Idel. Ce colloque, comme nous venons de l'entendre, doit beaucoup au travail que Moshe Idel a conduit pendant ces décennies et qu'il a voulu souvent ancrer, situer au Collège de France et la revue que je dirige a bénéficié souvent de ces textes. L'un est justement très récemment consacré à ce whisper qui nous réunit. Ce volume monographique était consacré à la Kabbale avec des essais réunis par Angela Guidi, qui devait prendre la parole ce matin, mais elle a dû renoncer pour des raisons de santé. Dès le commencement de mes cours au Collège de France, Moshe Hidel a donné en 2001 quatre leçons inoubliables qu'il a réunies sous le titre « Chaîne enchantée, essai sur la mystique juive », essais qui nous ont permis ensuite de continuer dans ce sillon avec des séminaires, des colloques. Je pense notamment à « Pour un vocabulaire mystique » au XVIIe siècle. C'est à ce titre de remerciement et de fidélité à sa leçon que nous réunissons aujourd'hui ce colloque autour de son œuvre et de sa personnalité. Et je voudrais, pour rappeler la richesse des domaines qu'il a ouverts à nous tous, vous proposer deux citations seulement du livre que je viens d'évoquer. La première tirée d'un texte hassidique du XVIIIe siècle, l'autre remontant au Pardes Rimonium de Moïse Cordovero. Alors, voilà la première citation et nous entrons en matière immédiatement. « Pendant ta prière et ton étude, sous-entendu de la Torah, tu comprendras et tu unifieras chaque son et chaque énonciation de tes lèvres, parce que dans chaque lettre prononcée, il y a des mondes et des âmes et de la divinité, et ils montent et se combinent et s'unifient les uns aux autres et avec la divinité, et après les sons se combinent et s'unifient en une union parfaite avec la divinité, et l'âme sera intégrée avec eux dans la divinité. » Texte magnifique qui est au centre du chapitre « La Torah et son étude comme technique et expérience ». Et je voudrais prendre l'autre de Moïse Cordovero. Nous avons là encore une espèce de phénoménologie plus subtile. D'elle, la vapeur de sa bouche apparaît une force spirituelle, une entité qui est comme un ange qui montera et sera liée à sa source et se hâtera de produire son opération d'une manière vive et rapide. Et c'est le secret de la prononciation des noms divins et la kavana de la prière. Eh bien, vous voyez que là, nous avons déjà toute une panoplie de phénomènes et de textes. Il ne s'agit pas d'une tradition de la mystique juive seulement, mais nous retrouvons ces paradigmes dans d'autres traditions mystiques puisant à la Bible. Nous le verrons dans la matinée, dans les exposés qui vont suivre. Ces bruissements, ces mouvements et élans, on serait tenté de dire onévorté, concernent également les poétiques en vers et en notes du Moyen-Âge au XXe siècle. Le sacré et le profane se réunissent dans la conscience de l'inexprimable. Mais je ne voudrais pas cacher non plus le défi que nous assumons en parlant de signes dont le statut est fragile et à peine perceptible. Nous devrons appliquer à nous-mêmes, et Nathan Wachtel vient de l'évoquer, toute une levitas vocis et mentis pour ne pas faire précipiter dans un discours désireux de trop saisir des traces qui s'évadent d'une manière vive et rapide, comme nos textes le suggèrent. Finalement, une troisième difficulté ne peut pas être ignorée. Ces signes apparaissent à la surface du langage, comme le remarquait Michel de Certeau, pour y disparaître, pour ne laisser qu'un appel sans preuve et sans retour. Je voudrais à ce sujet simplement suggérer l'apologue si célèbre d'Élie à l'Horeb, premier livre des rois 19-18, ou encore Liber Malachim dans le texte de la tradition latine. Eh bien, je lis rapidement le centre de ce passage pour venir à des petites remarques. Là, il entra, donc c'est Élie, dans la grotte et il resta pour la nuit. Voici que la parole de Yahvé lui fut adressée, lui disant, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance et qu'ils ont abattu tes autels. » Il lui fut dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant Yahvé. » Et voici que Yahvé passa, il y eut un grand ouragan si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers en avant de Yahvé, mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais Yahvé n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Il sortit, il se tint à l'entrée de la grotte, et alors la voix de Yahvé lui parvint et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Bon, le passage est célèbre. Je ne vais pas lire le texte de la Vulgate, mais je retiens au moins la formule par laquelle la Vulgate traduit. Sibilus aure tenuis. Sibilus aure tenuis. Eh bien, il y aurait une bibliothèque entière de commentaires sur ce thème. Nous n'avons pas le temps et même pas la prétention de nous attaquer à cela. Mais le problème est tout simplement déjà dans la manière par laquelle les traductions modernes donnent dans nos langues ce « sibilus aure tenuis ». Au fond, elle n'arrive pas à définir, à circonscrire. C'est une difficulté essentielle pour la journée que nous commençons. Je prends par exemple la traduction la plus, comment dirais-je, conciliante et conciliée possible, c'est-à-dire la traduction de la Tobe, traduction écuménique de la Bible. Eh bien, ce sibilus devient le bruissement d'un souffle tenu. D'accord pour bruissement, mais en bas de page, il y a une note qui dit littéralement le bruit d'un silence tenu. Alors, vous voyez que déjà là, il y a une très grande et profonde différence. D'un côté, il y a le bruissement d'un souffle, mais de l'autre côté, il y a le bruit d'un silence tenu. Dans les siècles précédents, prenons une traduction classique, le maître de Sacy avait traduit quant à lui le souffle d'un petit vent qui semble être fidèle à l'hébreu. Là, je cite un article qui semble suffisamment érudit, mais je parle sous le contrôle de Moshe Idel. Eh bien, semble être fidèle à l'hébreu des mamas qui serait alors une brise, mais la Vulgate là aussi, est incertaine, et ce « démama » est quelquefois traduit par, comme nous l'avons vu, « sibilus », mais d'autres fois, comme dans la traduction du psaume 106-29, la Vulgate traduit « ora aura ». Alors, « sibilus aura », même la Vulgate hésite. Restons au français. Dans la Pléiade, vous avez par exemple, alors là c'est déjà bien articulé, le son d'une brise légère. Et en anglais, dans le Tyndale's Old Testament, donc un recueil en 49 volumes qui est très diffusé, Small Still Voice, Small Still Voice. Vous voyez que nous n'arrivons pas à conclure, à saisir. Finalement, ce bruissement n'est pas un bruissement, ni une brise, ni un souffle, ni le bruit d'un silence. Et également en latin, sibilus sonitus aura. Peut-être, simplement, comme René Char le suggère, nous errons auprès de Margelle, dont on a soustrait les puits. Bonne ronde, mes amis, et je suis honoré de donner maintenant la parole à Moshe Idel.